Alors, Québec pense qu'on a atteint une espèce de plafond et il y aura peut-être un plateau pour ensuite voir le nombre de cas redescendre, ce qui a amené hier l'annonce de l'ensemble de ces mesures. Et je pense que c'est important ce matin parce qu'on sait qu'on augmente la cadence de la vaccination. François Legault a reconnu hier que le Québec avait pris du retard, mais que là, on tente de rattraper, que la machine va mieux, qu'on va viser les gens qui... Puis on a élargi d'ailleurs la base d'accès là, pour la fameuse troisième dose, puis on va essayer de vacciner également un maximum d'enfants à l'école. Donc, faisons le point avec le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Je veux juste qu'on clarifie un point tout de suite. Là, la décision de dire aux Québécois, si vous avez eu la COVID, que vos symptômes sont terminés, d'aller chercher votre troisième dose maintenant, c'est pas ça que vous recommandez, vous?
Non, pas du tout. Je pense que si vous avez eu la COVID, c'est-à-dire que vous avez eu un test positif ou que quelqu'un autour de vous, vous habitez quelque part, vous avez fait un test antigénique positif à un de vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, qu'il est sorti positif, que vous avez eu des symptômes secondairement à ça durant la période des fêtes, très fort probablement que vous avez eu la COVID. Évidemment, si vous avez eu un test PCR, vous avez eu la COVID. Donc, si vous avez eu la COVID récemment, ça veut dire que vous avez eu le variant Omicron. Et donc, et surtout, encore une fois, il faut le souligner, si vous avez eu deux doses ou même une dose de vaccin auparavant, à ce moment-là, ces gens-là, on recommande d'attendre environ un minimum de 3 mois. Ce serait probablement le bon temps à attendre avant d'avoir sa troisième dose ou sa dose subséquente, sa deuxième à la limite. Et l'avantage peut-être, c'est que plus on attend, il se peut que d'ici avril-mai, les vaccins arrivent avec des formulations qui vont être plus adaptées aux nouveaux variants. Donc, il n'y a pas d'indication à aller donner des vaccins à des gens qui viennent faire la COVID.
Bon, deuxième question, quand vous regardez ce qui se passe ailleurs, par exemple en Europe, et quand vous regardez la situation ici, est-ce que vous avez l'impression qu'on est rendu à une espèce de sommet, là? On ne dit pas que c'est sous contrôle et que ça baisse, mais qu'on a atteint peut-être les pires moments?
On est probablement pas loin du sommet, peut-être au début du sommet, mais rappelez-vous que le sommet, c'est pas un pic acéré qui arrive comme un pic et qui redescend tout de suite, même si on a dit qu'avec Omicron, il semblait avoir une forme un peu différente. Souvent, le sommet, c'est un plateau sur lequel on persiste pendant quelques semaines. Donc, même si on est arrivé au sommet, et probablement que si on l'est pas, on n'est pas loin. Mais c'est un plateau qui va persister parce que, rappelez-vous, on a fait l'image de cette boule de neige qui descendait un petit peu de la montagne et vous pouvez pas l'arrêter net. Et vu le nombre de cas, ça va nous prendre 4 semaines, 5 semaines avant d'avoir une éclaircie. Donc, on n'est pas loin du sommet, mais on va encore avoir certaines périodes difficiles. Il y a aussi des choses qui vont peut-être modifier. Donc, si à un moment donné, par exemple, est-ce que le retour à l'école va augmenter potentiellement le nombre de cas? Donc, il y a quelques incertitudes, mais on est certainement, je vous dirais, pas loin du sommet. Mais ce qui est important à se rappeler, quelle va être la durée du plateau au sommet?
L'autre question que les auditeurs se posent, et je la transmets, et le docteur Oliva, le président de votre fédération, était avec nous hier matin en disant « il faut penser autrement, c'est Omicron, c'est pas Delta ». Il y a toujours une inquiétude de dire « est-ce qu'on va ramener trop vite des gens qui, par exemple, ont eu la COVID dans le réseau de la santé, près de patients qui sont à risque parce qu'on manque de personnel ?» L'idée, donc, de raccourcir la période d'isolement, vous en pensez quoi?
Ben, écoutez, moi, pour être transparent, j'ai donné déjà mon avis sur un comité en disant que dans les circonstances actuelles, qui sont des circonstances exceptionnelles, ce qui est important, c'est de donner les bons services à la population, puis je parle à mes collègues des autres spécialités, et je comprends qu'il y a des spécialités, l'orthopédie, l'ophtalmologie, beaucoup de spécialités chirurgicales, la chirurgie oncologique, où on ne donne pas au Québec actuellement les traitements optimaux aux patients, pour toutes sortes de raisons. Donc, si vous cassez le bras, peut-être que vous n'aurez pas la bonne chirurgie au bon moment et vous allez rester avec des séquelles. On donne de la radiothérapie à des patients d'oncologie plutôt que de la chirurgie ou des traitements de chimiothérapie adaptée. Il y a des gens au Québec qui perdent la vision tous les jours parce qu'on leur fait pas leur chirurgie ophtalmologique. Ça, c'est des choses qui ne sont pas comptées dans les statistiques. Et on peut continuer la liste comme ça de façon très, très longue. Et mes collègues dans toutes les spécialités vous disent qu'à l'urgence, on est débordé, etc. Bon, alors, il faut savoir que quand vous avez des travailleurs de la santé qui sont doublement, mais surtout triplement vaccinés. On s'applique, on parle de travailleurs de la santé triplement vaccinés, qui ont eu leur vaccin depuis plus de 16 jours, qui sont relativement en bonne santé. S'ils font la COVID, ils ne font pas une COVID très, très sévère. Si ces gens-là reviennent, par exemple, après 5 jours, en portant un N95 et en respectant certaines mesures, oui, le risque existe de transmission. Mais le risque zéro dans la vie n'existe pas en médecine. Quand on fait une intervention chirurgicale, quand on vous donne un médicament, quand on fait n'importe quoi, il y a toujours un risque. Et à ce moment-là, le risque pour des patients qui ne sont pas traités adéquatement actuellement, il est beaucoup plus grand de compliquer que d'attraper la COVID, qui en plus de ça, il risque de l'attraper dans la communauté, parce que si vous êtes alité suite à une fracture, ben, il y a quelqu'un qui va venir vous s'occuper de vous et qui, lui, pourra peut-être vous transmettre la COVID. Donc, moi, je pense qu'il faut changer un peu notre approche. Et donc, oui, la Fédération des médecins spécialistes, on voit cet aspect de façon différente, dans le sens que, premièrement, on est arrivé à une étape où le virus en tant que tel n'est plus tout à fait le même virus de la première vague ou même de la deuxième vague ou même celui de Delta, et où il faut redonner des services à la population, sinon on risque d'être dans l'irréparable. Et moi j'ai décidé qu'on continuait de garder toutes nos cliniques externes ouvertes en maladies infectieuses à l'hôpital juif, parce qu'on a des services à donner à la population, et la télémédecine a ses bons côtés, mais ça ne peut certainement pas remplacer des choses qu'on peut faire en temps réel. Donc on n'a pas le choix que de retourner à une vision différente de l'approche qu'on pourrait avoir. Le modèle, si vous voulez, 1.0 de gestion de la pandémie ne doit plus être le modèle 5.0 de gestion de la pandémie.
Merci. Bonne journée, Dr. Weiss.
Vous aussi.
Au revoir. Dr. Carl Weiss, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal.